Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous allez bien aujourd'hui pour co-animer l'émission avec moi, Pauline Lavenir. Bonjour.
Bonjour, merci.
Nous sommes aujourd'hui le lundi 21 juin 2021. C'est le début des orages d'été avec un ciel plutôt nuageux depuis ce matin qui risque d'éclater cet après-midi. En tout cas, c'est ce qu'annonce Météo France. Et puis quand même des températures relativement fraîches autour de 24 degrés. Ça fait du bien après les grosses chaleurs de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on va faire au jeu de beau aujourd'hui dans cette émission, Pauline ?
Eh bien, comme chaque lundi, on retrouve nos rubriques habituelles. On va parler sport, et particulièrement de cyclisme et de transfert, avec Eddy Bernard. Et on terminera l'émission avec du jazz, dans la rubrique « Mets la 11e » avec Georges Botton. Mais d'abord, on va recevoir notre invité du jour.
Et oui, aujourd'hui avec nous en studio, c'est Philippe Merlot-Mora, président de la Villa Hispanica à Coni, lieu culturel ouvert sur le monde, principalement hispanique, mais pas que. Avec le retour des beaux jours et la diminution des mesures sanitaires, les activités s'y multiplient. Entre un festival musical intitulé Jeunesse Excellence Musique, J'aime, du 27 juin au 11 juillet, et une école d'été autour du cinéma espagnol, il y a de quoi faire à la Villa Hispanica. Philippe Merlot-Mora nous en parle dans quelques instants. Avant ça, on commence bien sûr l'émission en musique. Samedi 10 juillet, vous pourrez assister à un concert flamenco de Kaina Colora. En attendant, on va se mettre dans l'ambiance avec un peu de flamenco. Voici Camarón de la Ila avec Como el Agua. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous. De la Ila qu'on entend chanter, et le titre qu'on vient d'entendre, c'est Como el Agua.
Ensemble sur Calade.
Elle est aujourd'hui avec nous en studio. Philippe Merlot-Mora, bonjour.
Bonjour Mathieu et bonjour Pauline.
Bonjour.
Vous êtes président de la Villa Hispanica à Coni, Villa Hispanica qui va proposer plein de choses, plein d'activités sur les jours à venir. Avant d'en parler précisément, on va peut-être rappeler en deux mots ce que c'est que la Villa Hispanica. C'est un lieu culturel. C'était quoi l'idée de base de ce lieu ?
Alors, ce lieu, donc, nous rentrons dans la troisième année de son existence. Et son lieu, c'est un lieu, en effet, pour la diffusion des arts et de la culture à partir de Coni, donc du Beaujolais, pour le Beaujolais, mais aussi de l'international vers le Beaujolais. Donc, il y a eu aussi beaucoup d'intervenants internationaux, Espagne, Cuba, dont toute l'Amérique latine, États-Unis, qui sont venus, donc, sur le Beaujolais et sur Coni.
Trois ans d'histoire, effectivement, en 2019, on vous découvrait.
2019, oui, tout à fait.
L'ancrage dans le Beaujolais, je crois que c'est bien réussi aujourd'hui.
Ça s'est très bien réussi, notamment grâce à nos partenaires, la commune de Coni, l'agglo, le département, même la région, qui nous aide beaucoup. Et puis, donc, les locaux, je pense aux vignerons, à Madame le maire, ancienne maire de Coni, et le nouveau maire, donc Rémi Orion, donc tout s'est très bien passé et nous sommes très contents.
Le mois de juin, là, ça a été le début des réouvertures. Depuis quelques jours, on peut circuler dehors sans le masque. Les mesures sanitaires diminuent. Vous en profitez à la Villa Hispanica pour...
Nous en profitons beaucoup, beaucoup. Surtout qu'aujourd'hui, c'est la fête de la musique ce soir. Ouais. Donc, on va en profiter. Ce sera une thématique de la musique que nous pourrons développer. Et oui, parce que alors, nous avons toujours maintenu nos événements lorsque ça n'était pas possible en présentiel, donc c'était en distanciel ou en hybride. Lors des différents confinements, nous avions des journées d'études où il devait y avoir du public. Ça n'a pas pu se faire. Ce sont des conférenciers qui sont venus. Nous avons donc une grande salle où il y avait 8 conférenciers. Et nous avons eu les conférences donc, via Zoom. Et là, nous avons touché, alors c'est exceptionnel, nous allons garder l'idée, dans 400 à 500 personnes à travers le monde entier, puisque les gens pouvaient se connecter. Il y en avait de Nouméa, de la Martinique, de la Réunion. Ah ouais. C'était une journée d'études sur le Gréco.
Voilà. D'accord, ça permet de toucher plus de monde, effectivement.
Beaucoup plus.
Bon, l'intérêt du présentiel, c'est quand même d'être dans le lieu, déjà, qui est super, super sympa, et puis d'avoir un rapport peut-être un peu plus humain, là, ça va pouvoir permettre des belles choses.
En plus, pour le festival, alors que ce soit pour l'église, donc, alors, on sera jusqu'à la fin du mois une jauge à 65%, c'est-à-dire au lieu de 350, on limite à 200 places, c'est presque complet. Donc, on est très contents. Et ensuite, les 4 autres concerts, les 3, 4, 10, 11 juillet, se font à l'extérieur. Jauge limitée à 60, les personnes sont assises, donc comme dans des restaurants, elles pourront enlever le masque, mais on fait très attention. Et puis surtout, ils pourront bénéficier, vous avez parlé en effet de ce lieu qui depuis 5-6 mois a été totalement réaménagé avec les nouveaux jardins de la Villa Hispanica grâce à des entrepreneurs locaux, des tailleurs de pierre qui ont mis en place de superbes escaliers anciens.
Il y a eu des travaux et oui, vous avez voulu conserver
le plus beau des pierres dorées. Et il y a beaucoup de choses très belles ici.
Bon, on a commencé à évoquer ce fameux festival J'aime, Jeunesse, Excellence, Musique. Ça veut dire quoi ce titre ?
Alors, l'idée c'était de... Il y a beaucoup de festivals par ailleurs, musique classique, musique jazz. On n'est pas à Vienne, mais enfin, vous voyez. Donc, musique au Moyen-Âge. Et on voulait se focaliser sur une thématique. Et on a trouvé que la jeunesse, c'était très porteur. Et c'était bien pour les jeunes, surtout les jeunes musiciens qui ont pendant ce confinement, c'est très dur pour eux, tout comme les étudiants, c'est extrêmement dur. Et là, il fallait qu'ils commencent à sortir. Donc, on a contacté le CNSMD, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Il n'y a que 2 très grands conservatoires comme ça en France, à Lyon et à Paris, dont on a l'excellence, d'où le E. Voilà, excellence. Et ce sont des jeunes professionnels qui, lors de leur dernière année de master, passent le statut d'étudiant à professionnel avec des contrats dans des festivals, mais aussi dans de très grandes structures. Nous aurons la chance, notamment dans le Sextuor avant, d'avoir un des instrumentistes, je ne pourrais pas dire lequel, ce serait trop de pub, mais qui a un contrat à la Philharmonique de Berlin. C'est pas n'importe quoi. Et dans le quintet avant, donc un contrat à l'Orchestre Royal de Madrid. Voilà.
Donc des artistes internationaux.
Oui, mais jeunes, très jeunes.
Et jeunes.
Donc ça. Ce sont les meilleurs, l'excellence. Voilà.
Et justement, jeunesse, c'est du côté des artistes, mais j'ai l'impression que c'est aussi du côté du public. L'objectif, c'est de faire découvrir ouvrir et faire venir des jeunes pour leur faire découvrir la musique classique ou les inciter à s'y intéresser?
Tout à fait. Alors le soir, c'est le spectacle qui est ouvert donc à tout public, à tout âge. Et puis l'après-midi, notamment pour les deux concerts du Sextuor à cordes, du quintet à cordes, du Sextuor à cordes et du quintet avant, nous avons demandé au CNSMD que les répétitions puissent se faire avec un public de jeunes, donc ouvert au caladois. C'est gratuit. Ils assistent en répétition. Ils sont une dizaine. Pour le moment, c'est ouvert. Je n'ai que 2-3 demandes. Donc, n'hésitez pas à appeler la Villa Hispanica. Vous aurez sûrement les coordonnées. On vous les donnera. Et donc, c'est ainsi qu'on peut avoir des jeunes musiciens qui, au contact d'autres musiciens, vont se dire « Ah, mais cet instrument me plaît. J'ai commencé de la musique au conservatoire de Villefranche ou dans une école de musique locale. Mais voilà ce à quoi je peux arriver quand j'aurai 20 ans et j'en ai 12, 13, 14. » Voilà.
Et puis, découvrir l'envers du décor, le côté répétition, je trouve que c'est assez passionnant de savoir comment est-ce qu'un orchestre, une machine bien huilée qu'on voit pendant un concert, savoir les préparatifs avant, comment est-ce qu'on travaille, c'est
alors surtout c'est pour avoir assisté donc à leur dernière, enfin à une des répétitions la semaine dernière, aussi bien du sextuor que du quintet, c'est un excellent niveau, excellentissime niveau, donc parce que je vous dis c'est un niveau international, et en plus on voit très bien au niveau des répétitions comment ils font entre eux. Là tu as allé trop vite, attention, là tu as les fausses notes, ils en font pas trop, hein. C'est des rythmes de tempo, alors de ressentir la musique, tu vois, tu devrais faire un petit piano pour faire ressortir l'autre violon, ou le corps est trop fort, voilà, et ça c'est très très intéressant, et on voit très bien au bout de 2-3 échanges verbaux comment la musique se met en place, et c'est splendide. Ensuite il y a de très très beaux morceaux, vraiment,
c'est vraiment les subtilités qui vont travailler. Donc le festival J'aime Jeunesse Excellence Musique, c'est du 27 juin au 11 juillet, ça commence donc ce dimanche, et ça commence par le Livre Vermeil de Montesserrat, c'est le chœur d'oratorio
de Lyon. Tout à fait.
Et ce qui est intéressant aussi dans le Livre Vermeil de Montesserrat, c'est qu'on va pouvoir découvrir plein d'instruments qu'on a un peu oubliés. Parce que là, je vois par exemple que donc, c'est une inspiration donc, du Moyen-Âge. Pourquoi cette volonté?
Alors, tout simplement parce que c'était un choix fait avec le chœur d'oratorio de Lyon et sa chef, donc Catherine Molmery, qui dirige le chœur, c'est de faire intervenir aussi des jeunes, puisque c'est aussi un ensemble du département de musique ancienne du CNSMD de Lyon. Et c'est en plus une partition qui est splendide du Moyen-Âge et qui rappelle qu'il y avait des pèlerinages qui allaient d'un endroit à un autre, tout comme d'ailleurs le lieu qui va accueillir l'église de Cogny, qui était un lieu de pèlerinage, on ne le sait peut-être pas assez. Donc, on va raviver ces sortes de pèlerinages à travers cette musique donc, ancienne, du Moyen-Âge, avec des instruments anciens, alors non pas d'époque, mais qui ont été restaurés ou qui ont été reconstitués comme l'époque. Et vous avez l'ancêtre de la guitare, l'ancêtre, même pas du piano, même pas du clavecin, mais ça ressemble à une sorte de petit piano mobile.
C'est un orgue donc, miniature.
Un orgue miniature, photo, tout à fait, avant.
L'orgue de Paul.
Alors, ne serait-ce que pour ça. Et en plus, ce concert va être pédagogique aussi, puisqu'il y aura à chaque fois donc, une présentation. Alors, il y aura 2-3 petit temps d'explication où les musiciens vont expliquer, les instrumentistes vont expliquer quel est l'instrument, comment il s'appelle, comment on en joue. Donc ça permettra d'apprendre beaucoup de choses sur la musique du Moyen-Âge.
Voilà. Et d'amener des jeunes à pouvoir découvrir et jouer des instruments auxquels ils n'auraient pas pensé sinon.
Tout à fait, parce qu'on pense toujours au plus classique, le piano, le violon, la guitare, tandis que là il y a d'autres instruments très intéressants à découvrir aussi.
Ça fait partie de l'esprit Villa Hispanica, ce côté didactique, j'ai l'impression que ça vous tient à cœur.
Oui, c'est un peu ma déformation. Je suis professeur à la base. Je n'oublie pas, je ne redis pas ma formation. Donc, professeur à Lyon 2, en art, histoire de l'art, en visuel, mais je fais beaucoup de musique par ailleurs et j'aime bien que les gens comprennent aussi quand ils sont en face. Et les gens apprécient généralement.
Oui, voilà. Je pense. On va continuer le programme quand même de ce festival. Le week-end suivant, du 2 au 3 juillet, il y a deux rendez-vous, un le samedi, un le dimanche. On commence par un quintet avant.
Oui.
Et puis dimanche, ce sera un sextuor à cordes, quintet avant, sextuor à cordes.
Alors, vous l'expliquez un petit peu. dans le quintet avant, il y a en fait une flûte, donc un hautbois, clarinette, basson et cors. Et là, le programme. Alors, c'est carte blanche en fait au CNSMD. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'un seul impératif. Il faut qu'il y ait un morceau qui soit d'inspiration, qui soit espagnol ou d'inspiration espagnole ou latino-américaine. Dans le programme qui a été proposé, c'est le Dvorak arrangé pour quintet. C'est le quatuor américain qui est vraiment splendide. En fait, je vais les écouter et c'est ceux qui m'ont fait entendre. Et c'est très émouvant, extrêmement émouvant. Mais aussi le Summer Music de Barber. Et en espagnol, il y aura La Vida Breve, donc une danse espagnole numéro 1 arrangée, donc de Manuel de Falla, un très grand compositeur espagnol. Et puis pour le sextuor, donc le lendemain, le sextuor à cordes. Alors là, vous aurez deux violons, deux altos, deux violoncelles. Alors moi, j'aime beaucoup le violoncelle, mais j'aime parce que ça a une forme humaine, ça a une voix de baryton, et moi, c'est ma voix. Donc, pareil, alors ils vont donner du Puccini, d'Offenbach, du Bartok, mais surtout le premier sextuor à cordes de Brahms, qui est une splendeur, pour les avoir écoutés aussi. Et puis, je peux vous dire que là-dedans, il y a des jeunes professionnels, mais ce sont des virtuoses, non pas simplement à jouer des notes, mais dans le ressenti.
À interpréter.
À interpréter, dans l'interprétation.
C'est ce qui fait la différence.
Tout à fait. Donc là, c'est vraiment très bien. Et puis, la petite partie espagnole, c'est la oración del torero, la prière du torero de Turin.
Très bien. Et on va terminer avec le dernier week-end, samedi 10 juillet, le groupe Caena Colora. Là, on est dans du flamenco. Et le dimanche 11 juillet, le groupe Moka. On est plus soul, jazz.
Tout à fait.
Vous avez ouvert le festival qui commence très classique. Il y a des choses un peu plus contemporaines.
Il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, il y en a qui ont pris, comme je dis, l'abonnement, qui ont pris les 5. Ouais. Les personnes qui ont pris en disant, nous, on veut les 5, on veut écouter, c'est très bien, c'est à côté, on en profite. D'autres qui se focalisent sur le classique, d'autres sur le chant choral. Et là, pour Caena Colora, en effet, c'est du flamenco. Alors, vous avez fait écouter du flamenco au début, c'est du flamenco dit traditionnel, classique aussi. Mais il y aura donc du flamenco plus moderne, puisque elle-même est chanteuse venant de Triana, le quartier gitan espagnol de Séville, et accompagnée de deux guitaristes qui sont des professionnels. Mais, particularité, c'est qu'ils ont repris beaucoup de mélodies, par exemple des films d'Almodovar, de style Piensa en mi, ou Un año d'amor, ou Quizá, 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 et qu'ils ont flamenquisé. Donc, d'accord, vous aurez quelque chose d'aussi de plus contemporain, et de plus peut-être audible par certains qui se disent, le flamenco, pour moi, non, c'est trop, je comprends rien, voilà. Et puis le dernier, en effet, vous l'avez évoqué, alors, sur Jazz Soul, Moka, qui était déjà venu l'an dernier, lors du premier festival, et tellement aimé par le public, ça avait remporté un grand succès, on a demandé à ce qu'il revienne, mais avec un tout nouveau programme. Donc, la chanteuse a refait, Karine Empanade a refait entièrement le spectacle avec des morceaux entièrement nouveaux, mais c'est toujours influence jazz, soul, Afrique, afro-cubain, donc tous ces rythmes à la fois doux et endiablés.
Très bien, donc voilà, on a fait le tour de ce programme du festival J'aime. Pour prendre ses places, pour réserver, j'imagine que c'est bien de s'y prendre un petit peu à l'avance. Comment est-ce qu'on peut faire?
Parce que notamment pour dimanche, il ne reste plus que 10 à 15 places. Alors vous pouvez aller sur le site internet de la Villa Hispanica, villahispanica.com/concert au pluriel. Sinon, vous pouvez appeler le 06 85 66 39 44. 06 85 66 39 44. Il y a des possibilités donc d'acheter en place. Et puis sachez aussi que lors des concerts, lors des entractes, pas dans celui de l'église, il y aura des dégustations des vins de Cogny, de Rivolet et de l'Asna, des vignerons. Donc ça, c'est toujours l'idée, on fait de l'art, de la culture, mais aussi avec l'art et la culture vigneronne. C'est très important. Voilà.
Et puis dans le Beaujolais, ce serait dommage de se priver.
Tout à fait.
Vous avez évoqué brièvement, on va approfondir un petit peu les musiques des films d'Almodovar. Je crois que la Villa Hispanica va s'intéresser au cinéma espagnol. Il nous reste très peu de temps. En quelques mots, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est quand même exceptionnel.
Alors c'est exceptionnel, c'est une école d'été de deux grandes universités françaises, dont l'université de la Sorbonne et l'université de Cergy, qui viennent passer donc ici avec 17 doctorants, des personnes qui présentent leur doctorat et leur HDR, le niveau supérieur au doctorat, sur donc le cinéma espagnol et latino-américain, à travers des thèmes comme le genre, masculin, féminin, Amérique latine, Espagne, il y a de quoi faire, dans art public, politique, violence, histoire, et surtout nous en sommes très contents, un partenariat avec le cinéma des 400 coups de Villefranche-sur-Saône. Voilà, ça. Donc, c'est très très bien.
Des films qu'on pourrait assister aux 400 coups, alors, expliqués par des
mardi et jeudi, si je ne me trompe pas, mais appelé et puis donc vous aurez les informations. Ça se fera donc expliqué par les doctorants, introduction par les doctorants qui donnent des pistes de compréhension du film, le film et ensuite un débat. Voilà. Et sinon, sachez qu'aussi à Cogny, vous pourrez, si vous le souhaitez, donc assister à des parties de la journée de ces doctorants. C'est ouvert au public, maximum 10 personnes. Donc il faut réserver bien à l'avance. Tout comme pour des places à gagner.
Je vous ferai gagner des places à gagner demain matin. Faut bien écouter Radio Calade, 9h à 10h pour aller assister au festival Jeunesse, Excellence et Musique. Merci beaucoup Philippe Merlot-Mora. Je rappelle que toutes les informations qu'on vient de donner, si on veut aller dans le détail, savoir un petit peu ce qui se passe plus précisément, il y a un site internet qui est très bien fait où on retrouve tout ce qu'on veut savoir sur l'actualité de la Villa Hispanica. Et puis on peut vous suivre sur les réseaux sociaux aussi. On voit des,
tout à fait, sur Facebook.
Votre actualité. Oui. Merci beaucoup encore une fois.
Merci Mathieu et merci Pauline.
Merci.
Ensemble sur Calade.
Allez, je vais me faire plaisir. On était un peu dans la musique flamenco hispanique. C'est l'un de mes titres préférés. Voici les Gypsy Kings qui reprennent Hotel California.
Cuando quiere, pero nunca de partir.
c'était les Gypsy Kings avec Hotel California. Et tout de suite, on va parler sport.
Ensemble sur Calade.
Instant sport.
Et oui, pour parler sport, on retrouve Eddy Bernard. Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Bonjour Pauline. Bonjour Mathieu.
Comment ça va, en forme ?
En très grande forme, on respire un peu mieux. Hein,
vrai, effectivement.
Hein, pour ce premier jour de l'été, c'est pas plus mal.
Ça fait du bien. Bon, alors, il me semble au programme qu'on va commencer par parler de cyclisme aujourd'hui.
C'était l'essentiel de l'actualité sportive du week-end. C'était en effet les championnats de France de cyclisme avec toutes les différentes catégories qui étaient concernées, bien sûr. On va d'abord saluer chez les professionnels la très belle performance de Rudy Mollard qui est un coureur professionnel très chevronné mais qui est natif de Glaizé. Peut-être que je vous l'apprends. Eh bien, Rudy Mollard ajoute une belle ligne à son très beau palmarès. Lui qui sera sur les routes du Tour, hein, bien sûr, dès samedi, comme il a déjà eu l'occasion d'en réaliser plus d'un. Et Rudy Mollard est en grande forme parce que pour le championnat élite donc, qui se courait autour d'Épinal, dimanche, hier, 242 km, eh bien, il a pris la bonne échappée en compagnie du vainqueur du jour, Rémi Cavagna, mais également de coureurs très expérimentés comme Warren Barguil ou encore Damien Touzet ou le jeune Jérémy Cabot. Et il était dans la bonne échappée donc, échappée déclenchée à 200 km de l'arrivée quand même. Et ils ont résisté à tous les contres, toutes les attaques, tous les retours, 13 coureurs. Cependant, Rémi Cavagna a réglé tout le monde en l'emportant en solitaire avec 58 secondes d'avance, donc devant notre Glaizéen Rudy Mollard, deuxième donc au championnat de France à Épinal. Bravo à lui. Ouais. Et puis il y avait également les autres coureurs régionaux engagés cette fois dans l'élite amateur, les coureurs du Vélo Club Villefranche-Beaujolais, les Loups. Et nous avons eu, ma foi, un résultat un peu mitigé. C'est vrai que dans la course en ligne, le meilleur résultat, il est pour Thomas Joly, qui termine 14e, 12 tours de 14,5 km, avec trois coureurs des Loups qui se sont glissés au départ, dans la bonne échappée, et notamment donc Thomas Joly et Tao Kemere. Malheureusement, ce groupe a implosé, il n'était plus que quatre en tête. Au moment donc de la décision, je serais tenté de dire, rythme que n'a pas pu suivre Thomas Joly, qui s'adjuge tout de même une 14e place au résultat final. Oui. Et au contre-la-montre, au championnat de France de contre-la-montre, élite amateur, eh bien, Tao Kemere réussit une belle place d'honneur, 14e donc du classement. Bon, un résultat mi-figue, mi-raisin pour les Loups, mais tout de même. De beaux championnats de France. L'actualité pour notre équipe locale, eh bien, ce sera samedi et dimanche avec le Tour de Saône-et-Loire qui sera décisif puisque c'est la deuxième manche de la Coupe de France de DN1 et les Loups sont en retard. Il n'y a que quatre manches, ils n'ont encore pas marqué de points.
Il y a des points à taper.
Donc il faudra essayer d'ouvrir le compteur du 23 au 26 juin, donc dans le Tour de Saône-et-Loire, où on attend évidemment Maxime Jarnet, notre fleuron, ce jeune coureur que l'on annonce déjà comme signant chez les professionnels. Il est déjà approché par plusieurs grandes équipes du Pro Tour. Donc pour les saisons à venir. Donc on espère que ce week-end sera le bon pour les Loups du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cyclisme.
C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas de briller à cette compétition. Et la semaine dernière, Eddy, tu commençais à évoquer les traditionnels changements mercato, si on peut dire. Entre les équipes.
Les transferts, oui, en effet, parce que nous sommes en pleine période sur les sports collectifs qui préparent la saison prochaine. Et cette fois, je te promets, Mathieu, la saison prochaine sera une vraie saison.
On l'espère aussi, entière et complète.
Alors, on s'intéresse bien sûr d'abord à nos Tigres du Football Club Villefranche-Beaujolais, les Tigres qui ont réussi une saison 2020-2021 exceptionnelle, sans public, hélas, c'est vrai. Mais avec des résultats exceptionnels. Alors, le traditionnel mercato bat son plein en ce moment. Alors, déjà au registre des départs, il faut savoir que le chassé-croisé, le jeu de chaises musicales, comme tu le sais, entre Villefranche et Bourg-en-Bresse continue et a vu donc déjà tout un tas de départs. Les joueurs qui ne seront pas conservés par le coach Hervé Della Maggiore pour la saison prochaine, eh bien, il s'agit d'abord de Mohamed Lambiri, Romuald Lacazette, Terence Makango et Everton Mariotto de Lima, des joueurs qu'on a peu vus hein, dans l'effectif, je dirais, dans les cadres de l'équipe. Et le FCVB ne pourra pas conserver Romain Fleurier et surtout Arnold Garita, sa pépite offensive qui aspire probablement à jouer sous des cieux peut-être plus haut, en altitude plus élevée, en tout cas financièrement. Et puis Josué Aouré également est libre. Les départs, en revanche, ça c'est plus embêtant. Celui de Maxime Blanc, on pouvait s'y attendre, le maître à jouer caladois qui suit Alain Pochard, qui, comme tu le sais, a décidé de poursuivre l'aventure avec le football club Bourg-en-Bresse. Donc, il était naturel que celui-ci le suive. Romain Escarpi, le jeune attaquant, part à Bergerac. Et puis, Brian Feneuil, lui, descend d'un cran pour aller jouer à Limonest. Les deux premières recrues donc du FCVB sont, eh bien, je te disais, les chaises musicales. Je te le donne en mille, sont des joueurs de Bourg-en-Bresse, hein, évidemment.
D'accord.
Donc, qui, eux, viennent à Villefranche et qui suivent Hervé de la Magie Or. Les chaises musicales qui sont tout de même, qui équilibrent, je dirais, un petit peu la partie, parce que le maître à jouer bressant, Jimmy Nirlo, c'est un milieu de terrain, évidemment, très expérimenté de 32 ans. Jimmy Nirlo, donc, va animer le jeu caladois et sera le maître à jouer donc d'Hervé de la Magior la saison prochaine, qui vient de Bourg-en-Bresse. Et Guillaume Cousse, c'est un attaquant en pleine maturité de 28 ans qui promet beaucoup. Guillaume Cousse, donc, qui était l'un des fers de lance donc du SBB 01, lui aussi sera sous les couleurs des Tigres pour la saison prochaine. Voilà où on en est pour l'instant, mais enfin, d'autres recrues vont évidemment s'ajouter du côté du FCVB. Alors, puisqu'on parle encore transfert football, on va s'intéresser au Gol FC, l'équipe qui évolue en National 2, juste en dessous du National, et qui est donc basé à Chasselet. Eh bien, on a appris le départ du coach emblématique Chris, celui qu'on appelait le policier quand il jouait sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Chris est parti entraîner à des niveaux supérieurs, et le Marocain Jamel Alioui a été recruté par le Gol FC. Il vient de terminer sa carrière, on l'appelait la muraille de l'Atlas. Donc il a une philosophie, tu le devines, de défense, ouais, bien évidemment, qui a fait sa réputation. Et on a fait confiance du côté donc du duo Jocelyn Fontanel et Anthony Réveillère, qui dirige le Gol FC. On a fait confiance donc à ce technicien marocain, Jamal Alioui, qui a déjà recruté lourd, de très nombreuses arrivées. Je vais essayer de faire vite parce que je sais qu'on a très peu de temps. Eh bien, Alexandre Pedrero, lui, vient de Châtellerault. Kamel Benkrouf vient d'Épinal. On a Maxence Chapuis, formé, passé par l'AS Saint-Étienne, hein, donc, qui a fréquenté l'élite, le très haut niveau, et qui vient d'Annecy. Johan Quadio, lui, vient de Moulins-Isère. Edwin Karchi, lui, vient de Sedan. Il y a également le jeune attaquant Mansourci, en provenance de Jura Sud. Nathan Tanard, lui, c'est un Bressan. Il était au football club, Bourg-en-Bresse 01, je vais y arriver. Donc, expérimenté au niveau supérieur. Quentin Viera vient du Servette de Genève. Et Jonathan Mambou, lui, vient de Hyères. Effectif déjà bien rempli. Deux petits départs seulement, Arnaud Farras et Colin Kevin Collin, du côté du Gol FC, qui quitte donc l'équipe des Monts d'Or, qui promet beaucoup pour le National 2 hein, l'année prochaine, équipe ambitieuse qui a été freinée hein, dans ses ambitions hein, justement, avec l'arrêt de la saison de National 2 qui n'a pas pu reprendre. Donc deux grosses équipes de foot hein, à surveiller la saison prochaine, Mathieu, pour nous, avec les Tigres et le Gol FC. Voilà en gros pour les transferts. Je ne sais pas où on en est, si on a encore un tout petit peu de temps pour parler des autres sports.
On a deux minutes pour évoquer les autres sports. Bon, oui, on peut y aller.
Eh bien, écoute, très rapidement, je voudrais une nouvelle fois te confirmer que nos équipes de handball régionales évoluant dans les sports nationaux sont en pleine constitution. J'y reviendrai la semaine prochaine, si tu le veux bien, pour te donner plus de détails. Mais on aura des arguments à faire valoir pour le maintien en National 2 masculin à Villefranche, ainsi que pour les féminines de Saint-Julien-Denis-Églaizé, et puis une reconstruction à Belleville. Mais c'est l'équipe de basket de Beaujolais Basket sur laquelle je voudrais m'arrêter un tout petit instant, Mathieu, pour te dire que les dirigeants de Beaujolais Basket vont pouvoir très certainement jouer encore les premiers rôles, un top 4, top 5 probablement, voire plus si affinité en National 2 masculine la saison prochaine, parce que l'équipe de Beaujolais Basket a été complétée avec un meneur de jeu de haut niveau, international tunisien.
D'accord.
Qui a évolué très peu, hélas, dans la Loire à Feur, mais qui a été séduit par le challenge Beaujolais Basket. Donc, ce sera un joueur à suivre. Mais il faut savoir que Beaujolais Basket a conservé son trident offensif et a également recruté, je t'en ai déjà parlé, le fils de David Douillet,
oui,
qui est un basketteur déjà éprouvé, et a également intégré deux jeunes joueurs très intéressants, dont un qui fait un petit retour au bercail. Cette équipe de Beaujolais Basket qui sera gérée par Pierre-Olivier Croizat, toujours assisté de Bougia ici, donc une doublette d'entraîneurs qui devrait séduire par ses choix techniques, tactiques en Beaujolais, dans la philosophie de cette équipe flamboyante de Beaujolais Basket, dont je pense on parlera beaucoup la saison prochaine, Mathieu. Voilà pour l'actualité des transferts, mais il y en aura plein d'autres et on en parlera effectivement jusqu'à ce que nous partions en vacances les uns et les autres. Et peut-être vous-même, Pauline et Mathieu.
Effectivement, merci beaucoup Eddy. Donc rendez-vous la semaine prochaine.
Avec plaisir, bonne semaine. Allez,
très bonne semaine, à bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, tous ces changements et ces transferts au sein des différentes équipes, ça m'a donné envie d'écouter un classique Charles Bradley avec Change. Quelques notes qu'on vient d'entendre, Pauline.
Oui, on vient d'écouter Charles Bradley avec Change. Et on va passer à Mais la 11e de Georges Botton.
Ensemble sur Calade.
Mais la 11e.
Et oui, il est l'heure de mettre la 11e avec Georges Botton. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Comment vas-tu depuis lundi dernier ?
Il va très bien, j'espère que toi aussi tu vas bien.
Bah, ça va pas mal, merci.
Bon, tant mieux.
Ça va pas mal. Et je dis bonjour à mes amis auditeurs et à mes amis auditrices. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et comme vous savez que j'adore Pierre Dac, je vous en ai pas parlé tous ces temps, j'ai trouvé deux petites phrases de Pierre Dac qui reflètent une certaine prudence. Par exemple, celle-ci, c'est sur la justice. On a vu des hautes cours de justice se transformer en basses cours de police. C'est pas fou, parfois. Et puis, une deuxième phrase, pour l'homme de loi prévoyant, une mince provision en liquide vaut mieux qu'un gros chèque sans provision. Ben ça, c'est vrai dans tous les domaines. Voilà, c'est du Pierre Dac. Il y a longtemps que je n'ai pas eu au téléphone, d'ailleurs, donc pas Pierre Dac.
Il faudra rappeler.
Il est au paradis, le brave homme. Bon, alors, autrement, ben, je vous ai préparé un morceau de Jazz Revival, interprété par Louis Kidd, Chuck Madison à la trompette, George Lewis à la clarinette, Jim Robinson au trombone, Laurence Marrero au banjo, Alcide Pavago au sous-bassophone, Bobby Dodds à la batterie. L'enregistrement date du 8 mai 1944 à la Nouvelle-Orléans. Le morceau s'appelle San Jacinto Stomp. Et alors, pour la petite histoire, j'ai regardé un peu. Le trompettiste Kid Shot Madison a été avec Louis Armstrong dans la Waves Home for Colored Children. C'était une maison de redressement, si on peut dire, pour jeunes noirs délinquants, ou turbulents plutôt. Parce que Louis Armstrong, quand il était gamin, avait été chopé par un policier, il était dans la rue avec un revolver, ce qui était strictement interdit. Alors qu'il avait blessé personne, mais il se trimballait avec un revolver. Donc il a fait pas mal de mois dans ce centre de rééducation. Et d'ailleurs, ça a été une chance dans sa vie. Je crois qu'il a été bien traité, d'ailleurs. Et il est tombé sur un professeur de musique qu'il a vraiment lancé, qui lui a appris la musique. Et je pense que ça a été un vrai détonateur.
C'est là qu'il a commencé la musique.
Oui.
D'accord.
Alors voici donc San Jacinto Stomp de 1944. Et à mes auditrices, à mes auditeurs, je vous dis à mardi prochain pour la 101e et à lundi prochain pour la 11e.
Eh bien, ami Georges Botton, je te dis à la semaine prochaine.
À bientôt, Mathieu. À la semaine prochaine.
À bientôt. We'll be right back.
et c'était San Jacinto Stomp de Kids Scott Madison et George Lewis.
Ensemble sur Calade.
Et c'était bien sûr, on a oublié de le préciser, le choix de Georges Boton pour la Mela 11e. Pauline, comment est-ce qu'on réécoute cette émission ?
On retrouve le podcast donc sur Radio Calade et elle sera aussi en rediffusion donc demain, 10h. Et on a l'émission du coup tous les jours, sauf le week-end.
Rendez-vous pour le direct à 12h12, effectivement. Bon, il est temps pour nous de vous souhaiter une excellente fin de journée, chers auditeurs. Et le rendez-vous est donné pour demain, pour le podcast. Tout est fait. Ben, on n'a plus qu'à vous dire au revoir. À demain. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.